J'appelle de Boutinchassa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre en ce début de semaine. Les États-Unis ont décidé de couper l'aide militaire accordée au Rwanda pour cette année budgétaire pour son rôle dans l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne emboîtent à leur tour les pas aux Américains en suspendant eux aussi leur assistance au développement. Selon certains observateurs, la pression internationale monte d'un cran pour une solution définitive à la crise des Kivus. Mais selon vous, ces mesures vont-elles contribuer à mettre fin à la guerre de l'Est en République démocratique du Congo? C'est cette question qui occupe le cœur du débat, de cet échange et partage de 57 minutes sur les ondes de Radio Capi. Notre standard est ouvert et inscrivez-vous pour participer à ce magazine qui vous donne l'opportunité de vous exprimer vos critiques, questions et préoccupations. Faites-les nous parvenir à pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de les poster sur notre page Facebook ou nous appeler au 081 890 43 39. Conteste Matouba, Pierrot Elameji et Paul Badianam réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Nous aurons tout à l'heure, disons, notre invité, professeur Dominique Wirth, qui est conseiller scientifique au CAPAC, qui n'est autre que le centre d'appui politologique de l'Afrique centrale. Mais en attendant, on va prendre Joseph Fat, qui est à Bukavu. Et Joseph Fat, vous avez l'honneur d'ouvrir les débats de ce matin. Bonjour, Joseph Fat. Allô, Joseph Fat. Voilà, Joseph Fat, vous êtes en ligne. Bonjour. Voilà, donc je disais, après les États-Unis, les Pays-Bas prennent des mesures, des rétorsions à l'encontre des Kigali. Cette décision fait suite au rapport d'experts de l'ONU publié le mois dernier qui affirme que la rébellion du M23 dans l'est du Congo a reçu une aide directe de hauts responsables rwandais. Les autorités néerlandaises annoncent donc suspendre une partie de leur aide au développement au Rwanda, évaluée à 5 millions d'euros. Nous avons beaucoup de réactions aujourd'hui, disons des collègues, disons des auditeurs qui nous ont écrit. Nous avons des réactions de notre page Facebook. Je lis Josaphat Moussamba, que nous allons prendre d'ailleurs, qu'on me fait signe qu'il est déjà en ligne. Josaphat, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, je suis avec vous.
Voilà, vous avez l'honneur d'ouvrir les débats. Comment réagissez-vous par rapport à ces mesures? Pensez-vous que ces mesures vont réellement contribuer à améliorer la situation ou carrément la situation sécuritaire à l'est du pays?
Je suis, dans l'entrée de jeu, je suis assez pessimiste. Je voudrais dire non et oui aussi, parce que je suis content parce que vous avez dit que ça va contribuer. C'est l'une des alternatives, comme je l'ai dit dans le mail que j'ai envoyé, c'est l'une des alternatives. Mais ce n'est pas en fait une solution définitive par rapport à la question qui se passe à l'est de notre pays, la question du M23 et aussi le soutien au rwandais. Vous savez que en 2009, à l'époque où le Rwanda a pris aussi le Rwanda, eh bien, le pays scandinave avait menacé Kigali de répandre leur aide, et parce que Kigali brouillait en fait tout le processus que tous ces pays-là appuient pour qu'il y ait stabilité au pays. Et on a senti que le Rwanda avait piqué et avait tout fléchi et a eu le temps d'harmoniser avec les RDC. On a traqué Nkunda, on l'a mobilisé et voilà, il y a eu un semblant de paix. Mais aujourd'hui maintenant, parce que le groupe d'experts des Nations Unies a sorti à visu, à nu le Rwanda, eh bien, tous ces pays-là, c'est une sorte de pression qu'ils mettent sur Kigali pour que Kigali réoriente sa politique, réoriente ses options. Mais je pense que ce n'est pas une des solutions parce que sur le théâtre des opérations, le M23 est toujours là et continue à combattre le gouvernement. Et moi, je pense que c'est l'une des options vis-à-vis des pressions extérieures et de la diplomatie. Mais la charge pour enrayer la situation à l'Est, ce soit donc comporter un certain nombre d'approches. On a suivi le président de la République hier, il est avant-hier, il est en train de parler de l'approche diplomatique, politique, etc. Mais moi, je pense que c'est une question stratégique et de la tactique de la guerre. Vous savez, si vous lisez la loi 012 du 23 novembre, je pense, sur les forces armées et la défense de ce pays, j'ai l'option de savoir qu'on doit défendre le territoire national et sur le plan aérien, les forces armées aériennes, terrestres et navales. Mais comme la question se passe au nord de vous, eh bien, la stratégie pour traquer ces gens-là, il n'est pas appropriée, et même la tactique. Parce que les gens disent souvent, non, il faut une armée. Mais moi, je pose la question de l'armée efficace. C'est pas une armée pléthorique, une armée où on a besoin, mais l'armée efficace. Et c'est à ce moment-là que je pense que ça peut être une des alternatives. Ensuite, j'ai dit, et j'ai certifié ma thèse, le Congo peut enrayer cette situation, si et seulement si. Et d'ailleurs, c'est une voie, je veux dire, réaliste. On peut aussi soutenir les opposants à Kagame. On les soutient pour déstabiliser aussi le Rwanda. Sinon, on a déjà pris une autre option pour parler à la communauté de Kagame. Voilà ce que le Rwanda fait. On ne va pas acheter, mais on peut aussi déstabiliser. Et on peut prendre, soutenir les opposants à Kagame, les Kayumba Nyamwasa, etc. Tous ceux qui sont là, à travers nos services de renseignement, on les contacte et aussi déstabiliser le Rwanda. À ce moment-là, le Rwanda va rentrer.
Oui.
Ce n'est pas le cas. Vous savez, Mobutu a fait ça avec Neto, à une certaine époque. Mobutu soutenait avec le journal Savimbi et Neto a eu le temps de soutenir aussi les gendarmes Katangé et ils sont partis vers le pouvoir colonisé, etc. Et Mobutu a eu le temps de signer les accords de paix avec l'Angola. Je ne vois pas dans quelle mesure aussi on peut faire, parce qu'à ce moment-là, le Rwanda ne rentrera plus. Si on se tient à dire non, il faut appeler les Nations Unies, c'est hier, Genève, finalement, on est où? C'est ça que moi j'ai dit.
Josaphat, merci d'avoir eu l'occasion d'ouvrir ces débats avec une réaction très 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 pertinente. Vous avez évoqué l'histoire avec Mobutu, Neto, Savimbi, et ben voilà. Donc tout autour, je retiens une chose que c'est vrai, ça va contribuer à mettre fin à la guerre dans la mesure où c'est une des solutions, parce qu'il y en a tant d'autres. Nous aurons à recevoir notre invité qui pourrait nous éclairer là-dessus. Merci Josaphat d'avoir eu ainsi l'honneur d'ouvrir ces débats. Vous êtes à Bukavu et un coucou à tous ceux qui sont à Bukavu. Théophile, vous êtes à Kananga. Bonjour Théophile.
Bonjour Gilles.
Oui Théophile, comment réagissez-vous?
Bon, à mon point de vue, je reviens encore, comme mon prédécesseur l'a dit, je reviens sur l'histoire. Je me rappelle que l'ancien président Mzé Kabila, qui avait saisi le contour de l'agression de notre pays, avait utilisé une phrase que nous devons retenir et que nous devons examiner en profondeur pour trouver la solution. C'est quand il avait dit, je cite, « La guerre va retourner là où elle est venue. »
La guerre sera longue et populaire et retournera de là où elle est venue, c'est ça?
Justement, ouais. Donc, à mon avis, il y a dans l'interview du président de la République, je prends deux aspects. L'aspect diplomatique d'abord. Vous voyez que la guerre qui est à l'Est a pour objectif la modernisation d'autres pays. Ce sont des multinationales qui sont à la base et qui veulent qu'il y ait la stabilité en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent profiter de nos minéraux. Donc, à mon point de vue, les décisions des pays occidentaux de couper l'assistance au Rwanda jouent un grand rôle, bien sûr, mais néanmoins, il faudra que l'Occident se rappelle que à partir du génocide du Rwanda, plutôt, que la communauté internationale avait demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir ses frontières pour les militaires rwandais qui sont entrés avec les armes. Donc il faut que la communauté internationale aussi assiste la République démocratique du Congo pour désarmer les Rwandais qui sont arrivés ici et les retourner chez eux. Donc, à mon point de vue, c'est d'abord par la diplomatie agissante et l'assistance de la communauté internationale que la paix peut revenir.
Oui, Théophile, je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait par le Haut Commissariat de réfugiés, pour les réfugiés, donc depuis tous ces temps, parce que ces gens qui ont fait les déplacements de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est vrai, c'était par rapport à une circonstance, et aujourd'hui, il y a quand même une vague de retour organisée de temps en temps par les HCR. C'est vrai, on va y revenir avec vous peut-être tout au cours de cette émission. Merci Théophile d'avoir appelé à Kananga. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous rejoindre au 081 890 43 39 et ils peuvent également déposer leurs commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Dominique Wirth, vous êtes conseiller scientifique au CAPAC, Centre d'appui politologique de l'Afrique centrale. Vous êtes avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour, voilà. À vous.
Voilà, avant de revenir sur les réactions de Josaphat et celles de Théophile, pensez-vous que ces mesures constituent un engagement quand même ferme de la part de la communauté internationale à vouloir mettre fin à cette crise de l'Est de la République démocratique du Congo?
Ben, je pense qu'il est temps en effet maintenant que les pays amis du Rwanda, puisqu'on sait que ce sont surtout sur ces pays-là qu'il faut aujourd'hui agir et qu'il faut mener, bien entendu, le lobbying afin de pouvoir forcer le gouvernement de M. Kagame à retirer son soutien au mouvement du M23 et aux rébellions qui ont lieu là depuis maintenant 2 mois à l'est de la République démocratique du Congo. Donc oui, c'est une première bonne nouvelle dans le sens où des pays amis du Rwanda comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme les États-Unis et comme l'Allemagne aujourd'hui commencent à mettre une pression. Maintenant, je pense que les annonces qui ont été faites au niveau d'une forme de suspension d'un soutien financier au Rwanda sont quand même relativement symboliques. Alors, le grand avantage, c'est que ça a permis un effet boule de neige et qu'on voit aujourd'hui que la décision prise par les États-Unis et par Mme Clinton et par M. Obama a permis aux autres pays de pouvoir emboîter le pas. Ce qui est quand même un petit peu interpellant, c'est que de nouveau, ce sont les États-Unis qui doivent marquer le pas, montrer le chemin à des pays européens qui ont quand même un intérêt tout à fait précis et concret pour le continent africain et surtout pour l'Afrique centrale. Mais voilà, c'est de nouveau la réalité malheureusement de la diplomatie et de la communauté internationale. C'est que tant que les États-Unis ne bougent pas, les autres pays n'osent pas bouger. Mais voilà, je pense que différentes mesures qui ont été prises sont des mesures qui sont quand même de l'ordre du symbolique, certainement au niveau des États-Unis, quand vous pensez qu'on parle de 200 000 $ pour qui auraient dû être affectés à une école de sous-officiers au Rwanda. Bah, la suspension des 200 000 $, vous pensez bien que M. Kagame pourra quand même construire son école de sous-officiers avec ou sans les 200 000 $ des États-Unis. Mais c'est évident que c'est un geste, c'est un message qui est envoyé assez clair au gouvernement de M. Kagame, et on espère que ça va être suivi, évidemment, d'effets concrets sur le terrain.
Oui, Dominique, la réponse de Madame la ministre des Affaires, la ministre rwandaise des Affaires étrangères n'a pas tardé de dénoncer, donc de qualifier de ces mesures, de cette décision d'être des décisions actives. Surtout parce que le Rwanda bénéficie encore de la présomption d'innocence par rapport à sa participation ou à son soutien au M23 ou encore à d'autres forces actives à l'est de la République démocratique du Congo. Comment jugez-vous cela?
Ah ben, moi, je pense qu'elle est évidemment dans son rôle tout à fait légitime de condamner les gestes qui ont été posés par les pays amis du Rwanda cette dernière semaine. Maintenant, la présomption d'innocence, on est bien d'accord, sauf qu'à partir du moment où on voit que ces pays-là prennent des mesures de rétorsion budgétaire par rapport au Rwanda, suite au rapport des experts des Nations Unies, je pense que la présomption d'innocence devient quand même de plus en plus faible, et qu'aujourd'hui, si ces pays-là ont pris ces mesures-là, c'est une manière, en tout cas, de conforter les informations qui se retrouvent dans ce rapport du groupe des experts de l'ONU. Et que donc, aujourd'hui, la présomption d'innocence, je pense, du Rwanda est vraiment remise en question par les pays amis du Rwanda, ce qui démontre bien qu'il y a une implication du Rwanda, comme le rapport le montre bien. Il faut lire le rapport. Quand vous lisez le rapport, ce n'est pas écrit sur un coin de table hâtivement. Hein. C'est un rapport qui est vraiment fouillé, qui démontre de manière assez claire qu'il y a évidemment un soutien des officiels et des officiers rwandais au mouvement du M23 et aux rébellions et aux rebelles qui ont quitté les forces armées de la République démocratique du Congo pour rejoindre la rébellion. Donc, maintenant, elle est tout à fait dans son droit de protester et de condamner ces décisions, parce qu'elle sait très bien que si financièrement ça ne va pas avoir un impact énorme sur le développement du Rwanda, c'est évidemment en termes diplomatiques et au niveau d'une prise de conscience par la communauté internationale que la question est beaucoup plus fâcheuse.
Voilà, Eric est à New Delhi, en Inde, Jado est à Lubero, en RDC. Eric, bonjour.
Bonjour à la radio.
Voilà, Eric, comment réagissez-vous par rapport à ces mesures de pays amis du Rwanda qui viennent d'ailleurs de retirer leur aide ou l'assistance au développement?
Oui, merci beaucoup. Ma participation serait la suivante. Normalement, concernant les décisions que viennent de prendre les États-Unis et d'autres pays, c'est vraiment une très bonne décision. Mais la question reste de savoir, est-ce que vraiment le Rwanda pourra facilement faire appel à ces milices des M23? Est-ce que vraiment ces milices des M23 auront-ils cette facile volonté de pouvoir laisser la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui, si les États-Unis s'est dit « ok, c'est une mesure que tout le monde sûrement a aimé à féliciter », mais quels sont vraiment les points les plus focaux que les États-Unis et le Rwanda peuvent facilement retirer leur milice? Si ça serait une bonne chose pour nous de voir un jour que ces milices puissent quitter la RDC, parce que jusque-là, s'ils ne quittent pas, c'est nous, le peuple congolais, qui sommes victimes, nous sommes chaque jour tués. Et moi, je crois que s'il faut peut-être donner un message à notre gouvernement, ça sera au moins que notre gouvernement puisse faire les répliques pour forcer la force. Parce que souvenez-vous que les États-Unis a eu la force de réagir lors d'affrontements entre le réseau Al-Qaïda. Il n'y avait pas de négociation. Donc, lorsque le gouvernement congolais essaie de négocier avec les rebelles, comprenez-vous un peu que c'est une politique du genre enfantin. Et moi, j'aurais à suggérer que si la mesure que les États-Unis viennent de prendre avec d'autres pays n'est pas vraiment respectée, alors que la RDC obtempère, il faut répliquer la force par la force, parce que les peuples congolais ne pourront pas supporter de pouvoir chaque jour recueillir de mauvaises nouvelles qui, sûrement, nous perdons nos peuples. Voilà,
votre contribution. Merci beaucoup, Eric, d'avoir appelé de New Delhi. Jado, vous êtes à Lubero. Bonjour, Jado.
Bonjour, Gérard Lungembo. Bonjour tous les auditeurs de la radio Okapi, spécialement ceux des paroles aux auditeurs. En fait, concernant la question du jour, moi je trouve que les États-Unis ont pris une très belle résolution. Mais cela ne doit, ils ne doivent pas se limiter à cette suspension d'aide financière au gouvernement rwandais, parce que si nous nous rappelons dans l'histoire, la même valeur qu'a le paysan du Nord Kivu, du Sud Kivu, c'est la même valeur qu'a un paysan de l'Irak et de l'Égypte. Et si les États-Unis avait intervenu militairement en condamnant le régime de Kadhafi, le régime de Saddam Hussein, ils doivent autant condamner le régime de Kagame. C'est limité à une situation d'aide financière. Est-ce que ça aura un impact significatif à toutes les morts que nous sommes en train d'enregistrer dans le territoire de Lubero? Parce que même maintenant, même si il y a eu cette situation, nous ne nous sentons pas des effets déjà directs par rapport à ceux qui sont en train de commettre comme bavure. Ici, maintenant, on est en train de parler, nous qui sommes dans les territoires de Lubero, nos frères qui sont à Kiwanja, les garçons, sont en train d'être persécutés par les groupes du M23, les gens sont en train d'être assassinés. Est-ce que l'Amérique peut nous rassurer? Quelle sera la prochaine étape par rapport à ce qu'ils ont pris comme résolution? Je crois que cela peut nous aider à avancer. Mais aussi, le gouvernement congolais ne doit pas rester aussi bandé dans les yeux par rapport à cette déclaration. Parce que si nous nous souvenons, en 2008, lorsqu'il y a eu les rapports de Human Rights Watch, déjà étant des Rwandais qui combattaient aux côtés du CNDP, il y avait eu aussi certaines suspensions d'aide financière des pays de l'Europe. Mais cela n'a pas résolu
n'a pas
la question.
Impact.
Aujourd'hui, l'M23 Syrie, c'est directement le CNDP.
Voilà. Donc
pour résoudre la question du Nord Kivu, elle
oui,
peut être résolue en amont et en aval. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que réclame toujours depuis l'AFPL en passant par l'RCT, au CNDP et puis l'M23? Qu'est-ce qu'ils ont toujours réclamé? Et
voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a... Merci Jado, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte de nébuleuse autour de la réclamation de M23. Parce qu'autrefois, on disait les accords de mars. Aujourd'hui, on apprend qu'ils réclament autre chose. Bon, voilà, c'est pratiquement un autre expert qui est en ligne, d'ailleurs, de répondre à cette question. Nous avons Hubert qui est à Bukavu. Hubert, vous êtes avec nous. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à vos auditeurs.
Voilà Hubert, comment réagissez-vous?
Pardon, moi je pense que pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République en particulier et dans la région des Grands Lacs en général, il faut nécessairement que deux personnes soient déchues de leur pouvoir, à savoir le président de la République rwandaise et celui de l'Ouganda. Car ce sont les deux épines qui sont dans la plante de pied de l'Afrique du côté est.
Voilà, alors donc vous êtes optimiste quand même par rapport à la décision des pays amis du Rwanda qui viennent de suspendre leur aide, disons l'assistance au développement. Donc vous êtes optimiste, ça peut quand même aller, c'est quand même une des voies, comme l'a dit Josaphat, une voie vers la solution?
Non, ce n'est pas encore la solution. Il faut que ça arrive jusqu'à la destitution de ces deux gens-là, parce que l'aide est là. Pourquoi d'abord on peut dire qu'on donnait l'aide à Rwanda? Est-ce que le Rwanda était en guerre contre quel pays pour qu'il ait bénéficié de ces aides-là? Je pense que l'aide...
Donc il fallait plutôt que l'aide-là soit orientée vers...
Mais il faut nécessairement qu'on change les gens qui sont extrémistes.
Voilà, merci Hubert. Dominique Watt, vous êtes en ligne. Dominique, comment réagissez-vous par rapport aux interventions des uns et des autres?
Mais oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit vos auditeurs. Je pense qu'en effet, ça ne suffit pas. Il est évident que les décisions qui viennent d'être prises par les pays amis, c'est une manière évidemment de pouvoir essayer de mettre une forme de pression sur le gouvernement de Kigali, mais il est clair que ce n'est pas ça qui va arrêter actuellement la guerre. La vraie question, je pense, c'est qu'au-delà de ces décisions qui viennent d'être prises par les pays amis, concernant la suspension de l'aide budgétaire au Rwanda, il faut qu'on revienne peut-être aux accords et en tout cas conclusions de la conférence de Nairobi. Et donc aujourd'hui, il faut que sur le terrain, dans le Nord Kivu, mais attention parce qu'on sait bien que la situation va pouvoir dégénérer dans d'autres provinces limitrophes du Nord Kivu, je pense notamment au Sud Kivu, au Maniema, et donc il faut que sur le terrain, on arrête les exactions de ce mouvement du M23 et de ses alliés, parce que contre la population, parce que c'est ça qu'il faut maintenant. Il faut qu'on arrête que la population souffre de ces exactions, de ces pseudo-militaires et de ces rebelles. Et pour ça, moi, je pense que une force d'intervention, alors qu'ils ont appelé neutre à la conférence de Nairobi il y a deux semaines, il faut que cette force se mette en place. Et là, je pense que le vrai signal que pourraient envoyer les pays amis du Rwanda qui viennent de prendre des décisions de suspension d'aide budgétaire au Rwanda, Bon, je pense qu'il faut que maintenant, ils se mettent en avant et qu'ils se mettent en marche pour faire en sorte que cette force d'interposition qui doit permettre de ramener la paix, qui doit permettre d'arrêter ces mouvements de rebelles incontrôlés ou contrôlés par l'Ouganda et le Rwanda, eh bien, et pour ça, il faut qu'il y ait maintenant cette intervention. Alors, est-ce qu'elle doit passer par un renforcement de la MONUSCO? Est-ce qu'elle doit passer par un déploiement d'une nouvelle force militaire internationale neutre, comme le disait la conférence d'Addis Abeba? Ça, c'est une question
sur laquelle on peut encore réfléchir.
Mais il faut maintenant qu'il y ait une intervention militaire dans la région pour stopper les exactions qui sont de nouveau opérées sur les populations civiles.
Oui, Dominique.
On voit qu'il y a encore maintenant des dizaines de milliers de déplacés de plus en quelques semaines. C'est intolérable quand on connaît le calvaire que ces populations-là vivent maintenant depuis... Plus de six mois.
Voilà. Alors, Dominique, est-ce que vous avez appris, comme tout le monde, que le président de la RDC est intervenu à la chaîne nationale, voilà, en proposant quelques pistes. Hein. Il a proposé trois pistes pour arriver donc à mettre fin à ce cycle de guerre au niveau de l'Est. Il parle d'abord de la première piste, la piste politique, ensuite diplomatique, et enfin la piste militaire. Donc militaire qui revient en dernier essor.
Oui, ben écoutez, moi je pense que la piste diplomatique, la piste politique, elle doit être maintenue parce que de toute façon, je veux dire, les deux pays, ou même les trois pays qui sont concernés, à savoir l'Ouganda, le Rwanda et la RDC, sont condamnés à vivre ensemble jusqu'à la fin des temps, puisqu'ils sont voisins, donc on ne peut pas. Alors qu'on puisse éliminer, comme le disait un de vos auditeurs, mais je ne pense pas que c'est évidemment le rôle de la communauté internationale, qu'on puisse éliminer les chefs d'État actuellement qui seraient nuisibles dans ces pays-là, ça c'est une piste, mais qui doit être évidemment menée par les populations concernées. Et je ne vois mal comment on pourrait aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, demander à M. Kagame de s'en aller, ou à M. Museveni de s'en aller. Je pense que ce n'est pas tout à fait raisonnable. On a bien vu que dans d'autres pays où on avait tenté de faire ce genre d'opération, ça n'a pas toujours été.
Ça n'a pas donné toujours les résultats. Succès. Oui, il y a Franklin qui nous a écrit. Oui. Oui, allez-y, Dominique.
Comment dites-vous?
Oui, je disais, il y a Franklin.
En même temps, ben voilà, donc il faut maintenir la piste politique. Je pense que le chef de l'État est tout à fait sage dans son propos. La piste diplomatique, ben je pense qu'il faut qu'elle soit poursuivie. Il faut peut-être profiter, je ne dis pas que ce sera une opportunité extraordinaire, mais utilisons toutes celles que nous avons quand même à notre portée. Il faudra peut-être profiter de la présidence française du Conseil de sécurité de l'ONU pour que la France, avec M. Hollande, à la veille du sommet de la francophonie du 14 octobre, puisse éventuellement, au niveau diplomatique, renforcer encore la condamnation, voire les sanctions contre le Rwanda au niveau de la communauté internationale. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la troisième piste que le chef de l'État a soulevé est une piste qu'il faut mettre en œuvre, je pense, assez rapidement, enfin le plus vite possible, parce que ce sont de nouveau les populations civiles et les plus faibles, bien entendu, dans ces cas-là, qui actuellement sont victimes. Et on ne peut plus accepter que ces populations soient victimes comme ça d'exactions, de pillages, de viols, de tueries, de massacres. Ce n'est plus acceptable. Et là, je pense qu'il faut qu'on mette en œuvre les conclusions de la conférence d'Addis Abeba.
Oui, avant même qu'on accorde la parole à Émile, qui est à Lubumbashi, et Rajabu, qui est à Kindu, Dominique, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent déjà au niveau de la communauté internationale pour proposer les renforcements plutôt de mandat de la mission de la MONUSCO. En ce qui concerne cette force neutre, on propose simplement les renforcements du chapitre 7. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Oui, je pense qu'on peut renforcer le mandat, mais vous savez, le mandat actuel de l'ONU, enfin de la MONUSCO, permet déjà une intervention militaire à partir du moment où les populations civiles sont victimes d'exactions venant de groupes informels. Donc ce n'est pas tellement, à mon avis, le renfort du mandat qui serait nécessaire. Par contre, il est clair qu'il faut renforcer la présence de la MONUSCO physiquement
dans la partie
à l'est du Congo
avec des troupes qui sont peut-être un peu plus formées ou un peu plus aguerries que celles qu'on a aujourd'hui, dont on sait, moi j'ai pas du tout envie de critiquer évidemment les forces pakistanaises qui sont présentes là-bas et indiennes qui font un travail, je pense,
très remarquable.
Au-dessus
de leurs moyens. Voilà, on va accorder la parole à Émile et à Radjabou, Émile qui est à Lubumbashi et Radjabou qui est à Kindu, mais tout en rappelant, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs et vous pouvez nous faire parvenir vos réactions au 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Émile, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Émile.
Bonjour.
Oui, Émile, si vous pouvez un peu dynamiser votre voix, parler un peu fort, comme ça on va saisir vos propos. Voilà, vous êtes à Lubumbashi. Comment réagissez-vous par rapport à cette suspension d'aide ou de l'assistance au développement au Rwanda par ses amis?
Nous sentons que nous voyons qu'il y a la volonté de la part des parrains du Rwanda, mais c'est la plus grande responsabilité revient à l'État congolais de prendre les choses en main, d'accélérer un peu avec le processus, parce que à chaque fois que chaque jour qui passe, le sang des peuples congolais continue à couler. Et je pense que c'est à l'État congolais de ne pas se laisser différer avec cela. Ils peuvent accélérer afin que les choses aillent un peu beaucoup plus vite et afin de mettre fin à la guerre qui se passe à l'Est.
Okay. Merci Émile. Radjabou, vous êtes à Kindu. Bonjour Radjab.
Bonjour, bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux autres auditeurs de la radio de la paix.
Est-ce que vous rejoignez vos prédécesseurs ou peut-être vous avez une opinion contraire?
Simplement, je vais abonder presque dans le même sens que mes prédécesseurs, dans le sens que les donateurs, c'est-à-dire suspendre l'aide par les donateurs est un signal fort dans la mesure où le budget du Rwanda est à 45% constitué de ça, mais aussi ça affecte moralement les M23, le Rwanda et ainsi de suite, mais est-ce qu'il fallait en arriver là où nous sommes avec autant de dégâts matériels et humains pour couper l'aide au Rwanda? Ça ne changera pas grand-chose, parce qu'il faut aller au-delà. Au-delà, c'est dénicher les multinationales qui soutiennent les régimes de Kigali et citer nommément les officiels rwandais et leurs complices congolais impliqués dans ce qui se passe à l'Est et les déférer devant les juridictions internationales. C'est-à-dire quoi? Couper d'aide, c'est quoi? Ils doivent aller au-delà, les amis du Rwanda. Ils doivent aller au-delà. C'est-à-dire, les puissances et les superpuissances se sont sous la bannière des Nations Unies qui ont forcé les Zaïre à recevoir les réfugiés rwandais avec armes. Ils doivent sanctionner sévèrement les Rwandais et ses complices, sanctionner les multinationales, sanctionner les officiels les rwandais et leurs complices impliqués. Sinon, c'est la honte et discrédit.
Merci beaucoup, Radjabou, d'avoir appelé de Kindu.
International, confirmant ainsi la thèse de complicité au secret policier qui menace le Congo. Alors, moi, je vais poser la question à l'invité.
Oui, allez-y.
Quelles doivent faire les autorités congolaises dans cette étape que nous sommes?
Voilà, on vous saisit à peine, hein. On n'a pas bien suivi la question. Si vous pouvez répondre pendant 30 secondes.
À l'étape où nous sommes, que doivent continuer à faire les autorités congolaises? C'est ça la question que j'ai
voilà.
À l'invité.
Voilà, donc je vous rappelle que le chef de l'État a proposé trois pistes. La piste politique, la piste diplomatique et au finish, la piste militaire. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Molindi, vous êtes à Kisangani. Bonjour Molindi.
Alors, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, allez-y.
Ok, ma préoccupation est celle-ci. Les 100 000 dollars que les États-Unis et d'autres partenaires donnent au Rwanda ne suffisent pas pour que les Rwandais et l'Ouganda puissent alimenter les M23.
Oui, on parlait plutôt de 200 000.
Les est véritablement fort. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas-là? Dans l'État, le maréchal Mobutu avait déployé beaucoup d'argent pour faire étudier tous les militaires aux Indes, en Chine, en Israël et partout. Que les chefs de l'État puissent administrer tous les anciens généraux qui étaient dans l'ancienne armée et eux aussi puissent venir apporter leur contribution, leur pierre, pour que nous puissions quand même nous faire face à ce problème. Ça, c'était la première préoccupation. La seconde préoccupation, sur le terrain, nos voyants militaires ne sont pas forts, mais nous ne voyons pas la face. Dans l'État, il y a eu un gouverneur qui nous disait que c'était une poche résiduelle que les FARDC allaient les mettre hors d'état de nuit.
Oui, M. Molindi.
Or, sur le terrain, si nous suivons les informations qui se passent, ce n'est plus un petit groupe, mais ça devient de plus en plus ouf. Alors, que le gouvernement puisse nous dire d'abord, qu'est-ce qui a été à la base de la signature de ce traité que le gouvernement avait signé avec le M23. Qu'il puisse d'abord dire à l'opinion internationale, nationale, qu'on puisse savoir d'abord qu'est-ce qui a été dit sur ces conférences.
Oui, Lundi, l'information a évolué. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne revient plus sur les accords. Il y a la pression internationale qui monte d'un cran, je l'ai dit en début de cette émission. Est-ce que c'est un engagement ferme qui pourrait apporter la solution? Au fait, c'est ça le cœur du débat d'aujourd'hui. Merci, Molindi, d'avoir apporté quelques contributions et de nous avoir éclairé. Nous prenons Franck qui est à Vienne, en Autriche. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour, Franck.
Monsieur le journaliste, bonjour aux compatriotes qui suivent avec intérêt ce débat. Bon, nous sommes tous en train de suivre certaines décisions qui se prennent par-ci, par-là. Toutes ces mesures suspendant certaines aides financières vers le gouvernement rwandais constituent en soi un des messages qu'on adresse déjà au président rwandais et à ses acolytes. Mais personnellement, je crois que avoir d'abord la profondeur de l'implication du gouvernement rwandais par rapport à tout ce qui se passe dans la partie est du pays, il y a lieu d'aller au-delà de ces mesures de suspension. Ça, c'est une des préoccupations. Plus de deux, nous savons tous que il n'y a pas que le Rwandais qui est impliqué dans cette affaire-là, dans ce jeu-là. Il faut aussi qu'on arrive d'abord à convaincre ces décideurs informels, ceux qui ont vraiment conçu ce plan, qui l'ont étudié et qui cherchent coûte que coûte à le mettre en application, de renoncer à cela. Et aussi, je crois que nous devons être sincères envers nous-mêmes pour dire que nous avons aussi besoin d'avoir des gouvernements, que ce soit les membres du gouvernement, les membres du Parlement, ils doivent vraiment être sincères et responsables. Parce que personnellement, quand je vois comment ce dossier a été géré il y a 3 semaines, c'était géré avec beaucoup de légèreté. Une question très sensible d'intérêt national, l'avenir de votre pays est en jeu, au lieu de le débattre pour sensibiliser les citoyens, on voulait le débattre comme si c'était un dossier affectif entre hommes et femmes. Monsieur le journaliste, nous suivons ce dossier de près, nous devons dire qu'il n'y a pas que le Rwandais. Il y a les multinationales, il y a aussi un bon nombre de nos dirigeants congolais qui sont derrière ce dossier.
Donc vous proposez...
Et tant qu'on ne saura pas d'abord localiser qui est derrière ce dossier du côté du gouvernement congolais, on risquerait de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Voilà.
Je crois qu'il nous faut une diplomatie formelle et informelle, et il nous faut aussi avoir des députés plus responsables, qui ne doit pas seulement privilégier les intérêts d'une famille politique. Parce que ici, c'est l'avenir de l'État, c'est la nation qui est en jeu.
Franck, je crois que...
Et quand on voit comment ça se décide d'avoir au Parlement, on se demande ces gens-là qui nous représentent là-bas. Ils vont représenter seulement leurs intérêts personnels ou bien ils défendent les intérêts de toute une nation.
Voilà, Franck, je crois que nous avons bien compris vos propos. Hein. Il faut identifier non seulement les commanditaires, mais les commandités aussi, pour arriver à résoudre définitivement ce problème de l'Est. Voilà, merci Franck d'avoir appelé de Vienne en Autriche. Nous allons terminer cette série des auditeurs avec Wabene qui est à Goma. Wabene, bonjour.
Wabene.
Voilà, c'est
moi, je suis à Goma et
c'est
Wabene. Wabene. Hein, selon ce que nous voyons sur le terrain ici, voyez par exemple pas plus loin qu'hier, on a vu des déplacés qui venaient des villages frontaliers avec le Rwanda. Et ils ont déclaré, nous avons suivi à Radio Kivu One de Goma, ils ont dit que avant de fuir, ils venaient de remarquer des Rwandais qui entraient avec les armes à travers leur village. Ils ont averti les FRDC et les FRDC leur a demandé d'évacuer pour laisser les terrains libres pour les affrontements. Donc, on ne peut pas espérer vraiment que la position de ces pays puisse changer, fléchir le président du Rwanda. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup, Louabéné, d'avoir appelé de Goma. Dominique Walt, vous êtes conseiller, je l'ai dit, conseiller scientifique au CAPAC, Centre d'appui politologique de l'Afrique centrale. Vous avez suivi les auditeurs, en tout cas qui ne sont pas partis par quatre chemins. Ils ont parlé de sanctions qui doivent tomber. Et surtout, il faudrait qu'on arrive à condamner, à identifier des multinationales qui sont derrière le Rwanda et qui sont aussi derrière ces groupes armés actifs à l'Est. Comment réagissez-vous?
Oui, moi je pense que c'est évidemment un sujet tout à fait capital. Et c'est là où il va falloir qu'on mesure le niveau d'hypocrisie, peut-être, qui existerait chez les pays, notamment amis du Rwanda, qui ont pris les mesures là, de suspension d'aide budgétaire, parce que on sait bien que ce sont les multinationales dont la nationalité est de ces mêmes pays-là, et je pense essentiellement aux États-Unis et à l'Angleterre, mais aussi à l'Allemagne. Et ce sont ces multinationales qui ont évidemment intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'ordre qui revienne dans la région, puisque tant que il y a le désordre comme aujourd'hui, eh bien elles peuvent continuer évidemment à exploiter les ressources naturelles de la RDC sans trop s'en inquiéter. Donc oui, je pense qu'en effet, il va falloir qu'on voit maintenant si au-delà du message politique et diplomatique qui a été lancé au gouvernement de Kigali, de M. Kagame, est-ce que ces mêmes pays-là vont tenir un discours dur et même de sanctions par rapport aux acteurs économiques issus de ces pays-là, de ces nationalités-là, et qui aujourd'hui sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc oui, je pense que c'est évidemment une question centrale, et que le jour où la paix reviendra dans la région, et l'ordre reviendra dans la région, et l'autorité congolaise aura repris le contrôle, ah ben, il est évident que toutes ces entreprises qui actuellement profitent du chaos ben, vont devoir se mettre au pas, et vont sans doute gagner un peu moins de profit que ce qu'elles ne gagnent aujourd'hui. Donc c'est une question tout à fait essentielle sur laquelle je pense que les États, quand ils disent qu'ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir faire pression sur les acteurs économiques privés, je pense que c'est un peu faux, et que s'il y avait un courage politique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, voire même peut-être plus loin en Inde, on sait aussi que les Libanais sont derrière, une fois qu'on aura le courage politique de pouvoir mettre au pas les acteurs économiques privés multinationaux qui sévissent actuellement à l'est du Congo, eh bien là, on aura encore renforcé les chances de la paix dans la région.
Voilà, Dominique, disons, certains observateurs parlent d'un renfort aussi contre la vente des minerais de la guerre de la RDC. Hein. Donc, si nous revenons encore à l'histoire avec le processus de Kimberley, je crois qu'il y aura quand même une solution.
Oui, je pense qu'il faut que, comme on l'a fait au niveau du diamant, il faut absolument que les autres minerais puissent bénéficier du même système que le système de Kimberley, même si on sait qu'il n'est pas complètement optimal. N'empêche qu'il a permis quand même, en Angola on l'a vu, il a quand même permis d'arrêter les diamants de la guerre, notamment au niveau de la commercialisation et de la transformation. Et c'est là où il ne faut pas être hypocrite, parce qu'au-delà des pays dont les multinationales sont en train d'extraire les minerais, il y en a d'autres qui transforment le minerai. Ils ne sont pas nécessairement présents sur place au Sud Kivu, mais qui bénéficient évidemment de ces minerais en les transformant et en les commercialisant. Donc il faut vraiment qu'on ait toute la chaîne de production, de commercialisation, de transformation, d'extraction des minerais. Il faut que toute cette chaîne-là soit actuellement mise sous le contrôle des pouvoirs politiques des pays concernés. Parce que c'est eux qui sont évidemment aussi une des causes de la déstabilisation dans cette région-là. Si ce n'est pas la seule, il y a bien entendu des volontés de la part du Rwanda et peut-être même de l'Ouganda ben, de vouloir étendre leur territoire. Hein. Donc, c'est bien que toute guerre a comme objectif l'extension du territoire ici. Et que c'est pour ça qu'il y en a évidemment certains qui ne sont pas d'accord et que le conflit démarre. Mais il y a évidemment aussi toute la question du contrôle de l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Et là, il faut quand même aussi reconnaître que le gouvernement congolais pourrait être un peu plus actif aussi à ce niveau-là. On a vu notamment avec la question du parc de la Virunga, où le gouvernement sortant avait autorisé une grande multinationale du pétrole à pouvoir faire l'exploration dans le parc de la Virunga, qui est un parc naturel. Ouais. Et là, il faut aussi que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités, prenne sa part de contrôle dans l'exploitation des richesses
du Congo. Voilà. Oui, Dominique, on va revenir à vous. Le temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir, disons, à travers même de notre courriel, pa@radiocapi.net.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20, et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Nous allons profiter pour lire quelques correspondances que nous avions sur notre table ici. Franklin Camoyer qui dit « Peut-on comprendre pourquoi depuis 15 ans que la guerre existe à l'est de la République démocratique du Congo, les gouvernements américains accordaient des aides militaires et des appuis budgétaires chaque année et voire même l'annulation de la dette publique au gouvernement rwandais. Les USA et ses alliés devraient stopper avec le Rwanda et accorder ces appuis à la RDC s'ils avaient le réel souci de mettre fin à la guerre en RDC. » Donc vous voulez dire que l'aide qu'on a suspendue au niveau du Rwanda, il faut qu'on puisse l'orienter vers la RDC. Oracle Baibongé, ça c'est une façon de distraire le peuple congolais. Pensez-vous qu'un père peut lâcher son fils aîné à 100%? Ils ont un agenda caché. Christian Pamboa, cette suspension pourra nous être utile au cas où le Rwanda pourra cesser avec son aide au mitin du M23. Donc, tant que les autorités rwandaises ne comprendront pas qu'il faut cesser la guerre, toute initiative n'ira nulle part. Alors, Olda Alphonse Chris qui dit ces aides ne nous concernent même pas parce que ces rebelles s'autofinancent avec les minerais volés et les pillages qu'ils effectuent. Dire que le fait de ne pas accorder les aides au Rwanda peut changer ce qui se déroule à l'Est, c'est purement une mascarade, c'est de la poudre aux yeux, alors qu'eux aussi sont complices. Fiston Jacques Mastaki à Goma dit les USA, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Allemagne font semblant de se retirer alors qu'ils sont parmi les puissances favorites au Rwanda pour déstabiliser la RD Congo. Ils n'ont pas encore atteint le maximum de leurs intérêts qui cessent de nous distraire, car c'est à nous, Congolais, de remarquer le degré de leur soutien au mitin qui se retire ou pas. C'est la même chose, car il n'y a pas encore la paix. Donc il y a beaucoup d'autres correspondances. Bon, on ne saura pas à tout dire en ce moment parce qu'on doit accorder quand même le dernier mot à notre invité et aussi aux auditeurs qui sont en ligne, qui ont l'honneur de boucler les débats du jour. Il y a Rodrigue qui est en Boujimaï et Ernest qui est à Matadi. Rodrigue, bonjour.
Bonjour, monsieur la journaliste.
Voilà, comment réagissez-vous, Rodrigue?
À mon avis, je ne pense pas que la suspension de l'aide militaire par les États-Unis au Rwanda pourra contribuer à la cessation totale des hostilités à l'est du pays. Parce que je ne pense pas que la communauté internationale, et plus particulièrement les grandes puissances, ont l'intention de mettre fin à la guerre à l'est du pays. Les relations concernant la communauté internationale sont basées sur les intérêts. Est-ce que, dans ce qui se passe à l'est du pays, la communauté internationale peut-il faire des intérêts dans cette situation-là? Je pense tout simplement que pour mettre fin à la guerre à l'est du pays, il faut que notre gouvernement puisse s'assumer. Il faut que les autorités congolaises puissent prendre leurs responsabilités. Lors du défilé marquant les festivités du cinquantenaire, nous avons remarqué notre armée défiler avec toutes les armes du monde pour prouver à la face du monde qu'elle est capable de pouvoir faire quelque chose pour la défense de l'intégrité nationale. De même, à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielles, Nous avons vu le char de combat être déployé partout, sur toutes les étendues de la RDP. En tout cas, que le gouvernement congolais puisse s'assumer. S'il n'est pas capable, qu'il puisse démissionner et demander pardon au peuple congolais parce que ce qui se passe à l'est du pays est vraiment anormal et c'est honteux pour nous, le peuple congolais. Nous ne sommes même pas fiers d'être congolais égard à ce qui se passe à l'est du pays. Aujourd'hui, on parle de l'évaluation des accords. Est-ce qu'on nous a parlé d'abord du contenu de ces accords-là? Ces accords-là sont basés sur comme si journaliste.
Voilà, merci Rodrigue, hein, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été formulées dans ces accords. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on ne sait plus, c'est comme si on est dans une nébuleuse, on ne sait pas qui réclame quoi exactement. Finalement, il y a, c'est comme qui dirait, il faut des actions politiques, il faut des actions diplomatiques et également des actions militaires dans la mesure où on tient vraiment à mettre fin à cette crise de l'Est. Ernest, vous êtes à Matadi, merci d'être de notre également. Bonjour Ernest.
Bonjour.
Comment réagissez-vous?
Merci. Rapidement, comme nous sommes à la fin, je dis ceci. Lorsque l'Afdel avait pris les armes contre Mobutu, Mobutu criait qu'il était attaqué par les pays de l'Est. Et personne n'avait crié. Les États-Unis d'Amérique étaient l'Afdel, avec les autres puissances. Lorsque l'FDL était, c'était la même chose. Mobutu criait, on m'a attaqué, et personne ne croyait. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète. Nous pensons que la réaction du Rwanda qui a répondu ligne après ligne sur les rapports
des experts des Nations Unies.
Le Rwanda et derrière le M23, c'est cette politique que le gouvernement congolais doit avoir. Analyser tous les rapports. Qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque les organisations gouvernementales font un rapport sur la situation du pays, les gouvernements font des gouvernements pour dire qu'ils sont des affaires qui font de l'argent. Et lorsque maintenant la situation change, ils sont là sans rien dire. Il laisse le pauvre, le président de République qui cherche à plusieurs temps de dire ce qu'il a dit là-bas. Mais le pouvoir en France ne fait absolument rien, surtout les parlementaires, qui sont élus, qui doivent défendre, appliquer cette situation, et qui traitent mal la situation à la communauté parlementaire. Aujourd'hui, sur le coup, attention, le Rwanda va gripper tout le monde, et rien ne se fera parce que c'est des poudres aux yeux, comme les amis ont dit, le Rwanda ne sera pas, ne sait pas ses amis. Ils ont servi l'aide du Congo, sont servis de l'Est du Congo par des manières par matière première. Et quels sont les amis du Congo? Ils sont allés aux nations. Ils sont partis par là. Donc le gouvernement pourrait devoir donner une diplomatie agitante pour faire taire Kandam. Sinon, c'est pour nous rendre compte après des mètres d'après M23, c'est une autre solution qui va naître pour menacer le gouvernement place. Voilà ce que je pense.
Voilà, merci Ernest. Ça nous envoie à poser la question à notre invité. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de pays amis au Rwanda. Est-ce que les pays amis à la RDC, c'est pratiquement une préoccupation des auditeurs, ces pays-là ne peuvent pas aussi entrer en jeu? Comme ça serait peut-être le rapport des forces, monsieur Dominique.
Oui, je pense que, notamment si je prends l'exemple de la Belgique, qui est considérée, en tout cas au niveau de la communauté internationale, comme étant un pays ami de la RDC, je pense que la Belgique a déployé des efforts diplomatiques notamment par rapport à ses collègues au niveau de l'Union européenne, et vous savez comme il est difficile de mettre même dans les réunions des ministres des Affaires étrangères européens l'Afrique centrale à l'agenda des discussions parce qu'il y a toujours des préoccupations plus importantes que l'Afrique centrale comme la situation au Moyen-Orient, la situation de la crise financière, de la crise économique. Et donc, je pense que la Belgique a en tout cas bougé auprès de ses collègues et auprès des États-Unis aussi. Il y a eu des discussions en disant « N'oubliez pas, on sait qu'il y a actuellement la Syrie, qui est évidemment un des grands soucis de la communauté internationale pour le moment. N'oublions pas qu'il y a l'Afrique centrale. » Certains pays le font, essayent de rappeler à leurs collègues que c'est aussi important et que c'est surtout dramatique pour les populations civiles ce qui se passe là-bas, mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'attirer l'attention sur l'Afrique centrale dans les rencontres internationales ou dans les dialogues entre pays occidentaux ou même plus largement. Mais donc, oui, je pense qu'il faudrait que le groupe des pays amis de la RDC puisse se réveiller un petit peu plus fortement. Dans le sillage de ce qui a été fait par rapport à la suspension des budgétaires des pays amis du Rwanda, eh bien que les amis de la RDC se mobilisent pour travailler en effet sur les trois pistes que le chef de l'État a annoncées et a énoncées de manière assez claire. Et il était temps qu'il réagisse et qu'il prenne la parole, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu silencieux depuis quelques semaines. Mais voilà, on a maintenant une feuille de route, en tout cas dans le point de vue du gouvernement congolais et des autorités congolaises, que les pays amis se mettent derrière cette feuille de route énoncée par le président de la République afin d'accélérer la résolution du conflit et surtout d'arrêter ces violences et ses exactions contre les populations civiles.
Merci Dominique Howard. Nous rappelons que vous êtes conseiller scientifique au CAPAC, Centre d'appui politologique de l'Afrique centrale. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt. Nous disons également merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Paul Badianiam, à Pierre et Lamegi qui ont réalisé cette émission présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. L'info continue sur notre site web www.radiocapi.com.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Demain, Parole aux auditeurs consacrera le débat autour du sommet de la francophonie. L'UDPS et certaines forces acquises au changement s'y opposent pendant que la France a envoyé une émissaire pour évaluer l'avancement des préparatifs. Comment réagissez-vous? Nous attendons vos réactions et commentaires. Inscrivez-vous déjà et faites-les nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À tout de suite.